Radio Barque, contre-regard sur l'actualité narbonnaise. Radio Barque, 28e de cette saison. Bonjour Michel.
Bonjour Jean-Claude.
Bonjour André Bory.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'association écologique Rebrésus et on va bien évidemment parler d'un certain nombre de sujets écologiques et notamment de Malvézier, du traitement des nitrates et puis peut-être d'autres sujets. Ceci dans une troisième partie. Notre sommaire prévu aujourd'hui, Michel, tu commences par, bon, ça s'impose, un résultat,
oui, bien sûr.
Un coup d'œil sur les résultats des présidentielles, non pas au niveau national, mais surtout chez nous, dans à Narbonne, dans la Narbonnaise et dans l'Aude et dans la région aussi. Après quoi, à propos de présidentielles et de régions, on revient sur Carole Delga et des paroles parfois osées, imprudentes, et qui risquent de lui revenir dans la figure pour la suite. En tout cas, ça n'a pas tardé. Dans une deuxième partie, tu évoqueras le cas Mélenchon. Alors c'est un cas national, mais qui évidemment nous concerne aussi. Et nous finirons par un sujet plus local. Madame Garbet, Marie-Noëlle Garbet, qui est adjointe au maire à la mairie de Narbonne, qui semble devoir être démissionnée d'office. En tout cas, c'est ce que tu as écrit dans ton blog, Michel. Alors commençons donc par ces résultats du premier tour de la présidentielle dans notre département de l'Aude.
Oui, Jean-Claude, le soir même de l'annonce des résultats du premier tour de l'élection présidentielle, dans ce département, nombre de personnes qui y résident se sont demandé ce qui s'était passé, car effectivement, à regarder la carte de ces résultats, ce département qui habituellement est toujours présenté totalement rose, en fait.
Qui fut rose pendant des décennies.
Presque.
Hein, a une drôle de couleur aujourd'hui.
Et c'est couché le soir des élections, rouge-brun, si tu me permets, en fait. Cette métaphore picturale. Ceux qui ont un minimum de culture historique savent très bien à quoi je fais allusion en disant cela.
Alors le rouge, c'est Mélenchon, le brun, c'est Le Pen.
C'est Le Pen, donc on a clairement, si on additionne les voix, on a 50% rouge-brun, si on additionne.
À la fois, grosso modo, sur Narbonne, et c'est assez identique, et sur le département.
Alors avec en plus, Jean-Claude, si permis, une fracture est-ouest tout à fait surprenante.
En plus, oui.
Quand on prend cette carte, en fait, on a sur un axe Narbonne, en fait, au sens large du terme, dans le Castelnaudary, donc le sillon, quoi, le couloir, en fait, qui nous amène à Tramontane à très grande vitesse ici. On a donc toute la partie orientale, Minervois comprise, tout le secteur rural, Le Pen devant. Et la partie ouest, donc les corbières maritimes, les hautes corbières, plutôt effectivement rouges. Entre parenthèses, tu me le faisais remarquer, fait à neuf, une répartition est-ouest qui ressemble à la carte nationale d'une certaine manière.
Difficile à expliquer.
Mais on constate cette correspondance curieuse.
Et alors cette moitié rouge-brun, comme tu dis, Michel, ça signifie clairement que ces gens-là ont voté pour des programmes anti-européens.
Oui, on retrouve
la moitié de l'électorat.
On retrouve le clivage de l'élection le vote qui avait été demandé aux Français sur le traité de Maastricht. On retrouve pratiquement effectivement cela, quoi. Bon, qui est dans l'autre d'ailleurs, il y avait eu un très bon score du non, en fait, à Maastricht, autant que je m'en souvienne. Donc on a, et alors derrière, on a le Parti Socialiste dans l'autre qui arrive, qui fait un score historique.
Historiquement bas,
un peu plus à peine de 6%. Fillon s'en sort à peu près avec 15 et quelques. Donc on assiste dans l'Aude, mais comme partout en France, et particulièrement dans ce département, à un véritable séisme politique.
Alors si tu permets une petite remarque amusante, jadis les socialistes disaient on fait tout pour plumer la volaille communiste, là il semble que ça soit
l'inverse qui va se passer.
Les communistes ou en tout cas les mélenchonistes qui aient plumé la volaille socialiste, c'est un drôle de renversement.
Exactement, alors si on regarde en plus, si on fait quelques projections sur le futur, donc sur le deuxième tour législatif qui vont venir derrière, et si on considère que l'effet de levier d'une élection probable, sinon certaine, et avec quel cas, on en sait rien, on en reparlera tout à l'heure, d'Emmanuel Macron, si on compte donc sur un effet, si on parie sur un effet de levier de l'élection présidentielle de Macron, en fait, au second tour, et donc, par voie de conséquence, d'un bonus apporté à ses candidats, en fait, dans le département de l'Aude, qui arrive en troisième position pratiquement partout, quoi, hein, dans le département, on va avoir droit à des triangulaires dans les trois circonscriptions de l'Aude, hein, qui aujourd'hui, je me suis amusé à faire un petit calcul, si on considère en fait les scores réalisés au premier tour de la présidentielle et du taux d'abstention de la présidentielle, on a donc des triangulaires dans les trois circonscriptions de l'Aude, avec en numéro un Le Pen, et dans un mouchoir juste derrière, hein, on a France Insoumise, donc Mélenchon, et En Marche. Ça veut dire que dans cette hypothèse-là, le Parti Socialiste n'existe plus.
Oui. Hein? Et alors, vont profiter ces triangulaires?
C'est
la question.
C'est la grande question.
Parce que c'est là où le poids des personnalités va encore jouer.
Personnalités il y a. Et oui, sauf que quand même, hein, la capitalisation politique, faite à la fois du vote mélenchoniste et du vote Macron, risque de se produire de manière, en fait, si dans l'hypothèse où Macron serait effectivement élu, de manière forte, hein, et comme une partie non négligeable, en fait, de l'électorat, en fait, de gauche traditionnelle, en fait, de gauche plutôt social libérale, s'est portée d'entrée de jeu sur Macron à la présidentielle, on risque d'avoir effectivement cet effet de levier que je viens d'évoquer. Donc, situation à haut risque pour le Parti socialiste, en fait, ici dans ce département, hein, mais aussi, en fait, une situation à haut risque du point, enfin, au risque, je mets des guillemets, hein, car de ces triangulaires aussi, hein, rien ne garantit, hein, qu'effectivement, par exemple, le Front National s'en sorte vainqueur. Hein. Donc on est vraiment dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue politique.
Compliquée et très incertaine.
Très incertaine.
Et bien malin qui peut faire des pronostics sérieux.
Oui, et qui, de mon point de vue, sera en grande partie déterminée, hein, par le résultat du second tour de l'élection présidentielle,
bien entendu.
Dans l'hypothèse Le Pen gagnante, je ne fais pas de commentaire, mais dans l'hypothèse En Marche, donc Macron gagnante, ça va être l'écart entre Le Pen et Macron qui va faire effectivement l'effet de levier ou pas. L'écart sera resserré et moins l'effet de levier sera important, et plus l'écart entre Le Pen et Macron sera important, et plus l'effet de levier sera effectivement important pour les candidats d'En Marche sur le département. Donc on est dans une situation, Jean-Claude, extrêmement confuse, très indécise.
Alors pour ce qui est de la confusion, Carole Delga, elle aussi, dans ses discours, entretient elle-même une sorte de confusion dans laquelle je ne sais pas si ses ouailles s'y retrouvent.
Bien sûr. Et ça aussi, c'est un facteur qui va peser, en fait, dans les élections à venir, Jean-Claude. Carole Delga, à l'occasion du dernier meeting...
Donc la veille du premier tour.
La veille du premier tour.
Hein, tiens,
a tenu des propos, mais alors d'une violence à l'égard, justement, du candidat d'En Marche. Tel que ça, je l'ai dit, fait dans une chronique précédente, tel que l'on pouvait l'analyser, ce que j'ai dit d'ailleurs clairement, comme une faute quasiment professionnelle, en fait. On ne peut pas, alors que l'on sait très bien que l'on est dans une posture, dans un rapport de force extrêmement faible, et donc que la voie classique, en fait, de la gauche socialiste sera de se porter sur le candidat d'En Marche au second tour, on ne peut pas tenir des propos qu'elle a tenu dans le style rassemblement de Kakoshi, enfin de vieux briscard de je ne sais quoi, enfin bon, tout qui nouille, quoi, hein. Et donc retenir une partie de ses propres électeurs, hein, de se porter justement sur le candidat qu'ensuite son parti,
hein, sauf que dès le lendemain, Carole Delga appelle à voter
conclusion
Macron.
Mais oui, voilà, mais c'est là où ça ne va pas, c'est que les électeurs ne supportent plus,
bien,
quoi,
entendu,
hein.
Cette incohérence, stupidité dans les discours.
Et surtout, en fait, l'exagération dans les discours, dans des situations extrêmement compliquées, en fait, et confuses, qui demanderaient un minimum de diplomatie, et en tout cas, comment dirais-je, de caractère pour éviter, en fait, le pire, notamment, de mon point de vue, que ses propres électeurs restent à la maison, effectivement, en tenant, pour argent comptant, les premiers propos tenus par Maroc.
Absolument. Et c'est le risque tout à fait encouru et voire encouragé. Et tu parlais dans un de tes billets, Michel, de cécité politique. Je crois qu'on y est en plein.
On y est en plein, effectivement.
On y est en plein.
Et c'est la manifestation d'une situation au plan national, d'une extrême confusion dans les esprits, où les mots ne signifient, n'ont plus grand sens. Oui. Quand même, Jean-Claude, j'ai entendu parler, en fait, il y a pas très longtemps, en fait, hein, et on m'a envoyé des commentaires sur mon blog d'une violence inouïe, dans lesquels on m'expliquait qu'on n'avait pas à choisir entre le fascisme financier d'une part et le fascisme politique d'autre part. Oui. À croire, en fait, que le mot fascisme aujourd'hui n'a plus aucun sens pour ceux qui l'utilisent.
C'est profondément scandaleux. C'est un espèce de truc galvaudé qui ne veut plus rien dire. On marque une première pause et pendant ce temps-là, eh bien, peut-être pouvez-vous y réfléchir.